minutes.
Et pourtant elle tourne, saison 4, Sébastien Eugénie.
C'était il y a un an, les Malgaches manifestaient bruyamment et violemment dans les rues de Tananarive. À l'origine de cette colère, il y avait la crainte qu'une partie de leur terre, de leur pays, soit achetée par une entreprise étrangère, coréenne en l'occurrence. Madagascar est sans doute l'exemple le plus visible d'un phénomène qui touche le monde entier. Un phénomène aujourd'hui en plein essor, l'accaparement des terres cultivables du Sud par les pays riches. On pourrait presque parler de razzia. Les chiffres sont affolants. 30 à 40 millions d'hectares de terres cultivables pourraient faire l'objet de contrats. L'un des pays où cette question se pose avec beaucoup d'acuité, c'est l'Éthiopie. Bonsoir Virginie Gomez.
Bonsoir à tous.
Vous êtes la correspondante de RFI à Addis Abeba. Alors, les autorités éthiopiennes se sont lancées dans un véritable appel d'offres ces derniers mois. Ce sont des millions d'hectares qui pourraient être vendus ou loués dans ce pays.
Eh bien, certaines estimations font état d'1,5 million d'hectares déjà attribués. Et c'est une tendance qui devrait s'accélérer, en particulier avec l'arrivée d'investisseurs saoudiens. L'Arabie saoudite veut faire de l'Éthiopie, qui est proche de la mer Rouge, un de ses principaux greniers. Et elle dispose d'un très puissant relais sur place, le cheikh Hussein Alamoudi, de père saoudien, de mère éthiopienne. Le cheikh possède l'une des plus grosses fortunes du monde. Et ses sociétés réalisent plus de 50% des investissements directs étrangers en Éthiopie, et ce, depuis des années.
Alors, quels sont les arguments des autorités éthiopiennes pour ouvrir leurs terres aux exploitants étrangers ?
Alors, il faut dire que les critiques sur sa politique agricole font grincer des dents le gouvernement éthiopien. Ça fait des années qu'on nous accuse d'être anti-secteur privé. Et maintenant que nous nous ouvrons aux investisseurs étrangers, on nous reproche le contraire, disait récemment le premier ministre éthiopien Meles Zenawi. Ce dernier explique que la politique en faveur des petits exploitants agricoles se poursuit, que ces derniers ne seront pas pénalisés puisque ce sont des terres inexploitées, récemment désenclavées par le développement des infrastructures, qui sont alloués aux investisseurs étrangers. Selon Meles Zenawi, cette politique est donc tout bénéfice.
C'est un développement tout à fait bienvenu. Ce qui se passe, c'est que des terres qui n'étaient pas utilisées sont destinées aux fermes commerciales. Et nous espérons en allouer beaucoup dans les mois qui viennent. Le principal bénéfice ne vient pas de la location des terres, mais de l'emploi créé et de la production générée. Il n'y a rien de caché ici. Tous ceux qui veulent investir en Éthiopie dans l'agriculture sont les bienvenus. Et les premiers arrivés seront les premiers servis.
Pourtant, Virginie, certaines voix s'interrogent aujourd'hui sur les bénéfices réels de ce type d'investissement agricole qui ne sont pas nouveaux en Éthiopie, il faut le préciser.
Bah oui, il y a eu avant le développement de l'horticulture, les terres allouées pour la culture de biocarburants par centaines de milliers d'hectares, sans d'ailleurs créer la même émotion. L'Éthiopie compte des centaines de milliers de petits fermiers, de travailleurs agricoles, les salaires sont extrêmement bas. La main-d'œuvre paysanne ne va-t-elle pas être surexploitée pour le bénéfice des plus riches, sans pour autant que cela résolve le problème chronique d'insécurité alimentaire, puisque la production sera exportée? Eh bien, c'est la question que se pose Merera Goudina, l'un des principaux opposants éthiopiens.
Le gouvernement dit « je sais ce qui est bon pour le peuple », mais le peuple dit « ces investissements ne sont pas bons pour nous, car ils engendrent des déplacements de population. Beaucoup de terres sont prises, il y a beaucoup de promesses, peu de réels bénéfices en termes de biens publics. » En fait, certains de ces investissements rappellent les plantations coloniales, dont les locaux bénéficiaient peu. Tout ça est pour l'exportation. Une petite élite, des gens qui ont des connexions avec le gouvernement, peuvent ainsi s'enrichir grâce à ces investissements, mais pas la population locale. Et il n'y a pas non plus de compensation correcte quand les gens perdent les terres qu'ils ont habitées depuis des siècles. Alors, c'est le développement de qui ? Pour qui ? Pour les gens riches au pouvoir ? Un tel processus devrait inclure les populations.
Alors, on l'entend, les conséquences de ce type d'investissement sont encore très mal connues. Je vous propose à ce propos d'écouter un spécialiste de l'Éthiopie. Il s'appelle René Lefort. C'est un journaliste, chercheur indépendant. Et il s'inquiète de ce mouvement d'accaparement des terres, un phénomène selon lui très obscur.
Cette affaire est totalement opaque.
Tout ça se passe dans le plus grand secret. En Éthiopie, théoriquement, la terre est propriété de l'État, donc du peuple, selon la Constitution même. La moindre des choses aurait été que les citoyens soient informés de ce qu'on fait, de ce qui leur appartient, à savoir la terre.
De combien de milliers ou millions d'hectares parle-t-on ?
L'objectif officiel, c'est 3 millions d'hectares à distribuer dans les 2 ans qui viennent. 3 millions d'hectares, c'est le quart des terres actuellement cultivées en Éthiopie. Combien ont été réellement attribués ? Là, les chiffres varient du simple au quintuple, puisque certains disent que en réalité, on n'a pas distribué pour le moment plus de 200 000 hectares, tandis que d'autres vont jusqu'à 1 million d'hectares.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce phénomène ? Qu'est-ce que vous y lisez pour l'instant ?
Moi, ce que j'y lis pour l'instant, c'est un immense opportunisme. C'est-à-dire que d'un côté, les autorités éthiopiennes se sont dit il y a là une poule aux œufs d'or, il faut surtout qu'on saisisse l'occasion, qu'on ne la laisse pas passer. En conséquence de quoi ? On ouvre tout grand notre pays aux investisseurs étrangers et puis qu'ils viennent, on verra après comment est-ce qu'on va gérer tout ça. C'est un peu la ruée vers l'ouest parce que de l'autre côté, les investisseurs, eux, ils se disent il y a eu une crise alimentaire en 2008, elle va se reproduire, la population augmente plus vite que la production agricole. Précipitons-nous sur les terres disponibles, parce que si nous ne nous précipitons pas, d'autres viendront là à notre place. Donc c'est un véritable rush dont je suis absolument convaincu qu'il n'est maîtrisé réellement ni d'un côté ni de l'autre, que rien dans les accords n'est coulé dans le bronze, et que chacun se dit « installons-nous » ou alors « laissons-les s'installer » et puis on verra par la suite comment est-ce qu'on gère tout ça.
Est-ce que ça veut dire selon vous que ces accords risquent d'être une vraie menace sur les populations locales, les populations paysannes ?
Ah, certainement, certainement. Et d'ailleurs, elle commence à réagir très vivement. Il y a au moins 2 régions d'Éthiopie, l'extrême ouest, une région qui s'appelle Gambela, et l'extrême est, une région qui s'appelle Lafar, dans laquelle il est clair que les populations sont au bord, je dirais pas de l'insurrection, mais en tous les cas au bord de la révolte.
Alors passons maintenant de l'autre côté, du côté des acheteurs de terres agricoles. En Chine, par exemple, ce qu'on entend là, c'est la plus grande télé privée chinoise. En 2008, en pleine crise alimentaire mondiale, le prix du riz, du blé, du lait avait alors explosé. Et la télévision, aux ordres du gouvernement chinois, lançait donc un appel, on ne peut plus clair, aux entrepreneurs chinois, investissez à l'étranger, achetez des terres. Voilà en substance le message. Bonsoir Delphine Sureau.
Bonsoir.
Vous êtes notre correspondante en Chine à Shanghai. Alors, la Chine, pourquoi les Chinois ont-ils tant besoin de nouvelles terres ?
Eh bien, tout simplement pour garantir leur sécurité alimentaire. Si la Chine produit ce qu'elle consomme en riz, ce n'est pas du tout le cas pour le soja, qui est en majorité importé. Et lors de la crise alimentaire mondiale, la Chine a eu peur de manquer de nourriture. Alors, fin 2007, le gouvernement a élaboré ce plan pour sortir des frontières. Il faut savoir que la Chine ne possède que 9% des terres arables de la planète pour nourrir 22% de la population mondiale. Pourquoi si peu, me direz-vous, vu l'immensité du pays ? Voici les explications de Stephen Skuns, il est consultant agricole à Shanghai.
Le nord de la Chine est aride, il y a donc des problèmes de pénurie d'eau. 28% du territoire chinois est désertique. Il y a aussi un souci avec la qualité des terres qui sont dégradées. L'agriculture n'est pas suffisamment efficace. Et puis, vous avez le manque de terres lui-même. La rapide urbanisation et l'industrialisation ont privé l'agriculture chinoise des meilleures terres. Donc, la Chine cherche les terres d'autres pays. Ils les louent ou ils les achètent. Ils ont aussi différents accords commerciaux où ils peuvent acquérir les cultures et même être responsables de la récolte. Tout ça pour se fournir en produits agricoles qu'on ne peut pas cultiver en Chine.
Est-ce que l'on sait, Delphine, combien de projets chinois sont en cours et dans quel pays ?
La Chine compte actuellement une 40aine de sociétés agricoles implantées dans une 30aine de pays. Les investissements porteraient sur plus de 15 milliards de yuan, soit 1,5 milliard d'euros, injectés soit par l'État via des entreprises publiques, soit carrément par le secteur privé. La Chine investit en priorité chez ses voisins, Russie, Kazakhstan, où l'on produit du soja et du blé, l'Asie du Sud-Est également, et puis l'Afrique. Le géant chinois des télécommunications ZTE a notamment signé un impressionnant contrat en République démocratique du Congo, l'achat de 2,8 millions d'hectares pour créer la plus grande exploitation mondiale d'huile de palme. ZTE, c'est un groupe public que l'on retrouve aussi aux Philippines et au Laos. Mais en fait, il est difficile de recenser précisément tous les projets puisque la Chine entretient le flou, probablement par peur des critiques. D'ailleurs, officiellement, les incitations pour sortir des frontières sont aujourd'hui suspendues, mais la pratique continue dans les faits.
Et il y a beaucoup d'argent en jeu, on l'entend. Et est-ce que ces projets sont avantageux, gagnant-gagnant, comme on dit, pour les pays qui vendent leurs terres aux Chinois ?
Eh bien, si l'on en croit Pékin, ces projets donnent lieu à des transferts de technologies, ils améliorent la productivité des agricultures locales, voilà pour le discours officiel, qui se vérifie parfois. Nongken, une entreprise publique qui a investi en Russie, a par exemple financé deux usines qui créent de l'emploi localement. Mais le plus souvent, il faut dire, la Chine est montrée du doigt, car les entreprises débarquent la plupart du temps dans le pays avec leur propre main-d'œuvre. Rien qu'en Afrique, on devrait bientôt atteindre le million de paysans chinois. Difficile donc d'y voir un système gagnant-gagnant, selon le consultant agricole Stephen Kunz.
Quand les Chinois arrivent, que ce soit pour des investissements à long terme ou pour un accord d'un an, il n'y a aucun avantage pour la population locale parce qu'ils ne transfèrent pas de compétences. Je suppose que le seul vrai avantage sont les dépenses directes sur place. Mais quand ils arrivent, ils apportent leur logement et leurs propres équipements, donc l'intérêt est limité.
Alors qu'est-ce qu'ils devraient faire pour que ce soit gagnant-gagnant ?
La manière la plus responsable et de mettre en place un programme sur au moins 3 ans, au cours duquel vous améliorez les compétences et les infrastructures pour qu'ils soient capables de produire eux-mêmes. Mais envoyer une équipe complète sur place, ça a peu d'intérêt.
Ce qu'on entend derrière nous, ce sont les manifestations monstres à Madagascar il y a un an. Manifestation, je vous le rappelle, déclenchée à l'époque par la révélation d'une information explosive pour ce pays pauvre. La signature d'un contrat avec Daewoo, le grand industriel de Corée du Sud. Contrat qui prévoyait que Daewoo puisse exploiter 1 300 000 hectares de terres malgaches. Bonsoir Grégoire Pourtier.
Bonsoir Sébastien, bonsoir à tous.
Vous êtes donc dans la capitale malgache à Tananarive. À l'époque, la population avait fini par renverser son président, pas seulement à cause de ce contrat avec Daewoo, bien sûr. Reste que la terre, c'est sacré Madagascar, Grégoire.
Oui, on l'appelle la terre des ancêtres et les étrangers n'ont pas le droit d'en être propriétaires. D'ailleurs, petite nuance juridique, le contrat de Daewoo ne prévoyait pas une vente proprement dite, mais seulement, entre guillemets, un bail emphytéotique de 99 ans. Alors, la raison de la colère, ça a aussi été bien sûr la taille de la surface faramineuse lorgnée par les Sud-Coréens. 1,3 million d'hectares, c'est à peu près la moitié de la Belgique. Donc l'opposition a eu de mal à mobiliser la foule sur ce sujet. Écoutons Manu Rasulmanjat, l'un de ceux qui a monté le dossier à charge contre Daewoo et qui reconnaît que cette affaire a été l'un des 2 ou 3 catalyseurs dans la crise politique qui débutait alors.
C'est vraiment l'étincelle qui a fait exploser la situation. La foule l'avait entendu parler, mais ils ne savaient pas qu'il y avait vraiment un terrain à vendre. On leur a sensibilisé que si ça continue, nous n'aurons plus même un petit repas de terre. Nous ne sommes pas contre les investissements, mais comme les Malgaches étaient dans une paupérisation très 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 dure, comment nous allons concurrencer les étrangers ? Les Malgaches n'accepteront jamais de céder leurs terres à des étrangers. Ce n'est pas de la xénophobie, mais c'est la réalité. Nous sommes très jaloux de notre terre.
Alors ce projet de location de terre avait été complètement abandonné l'an dernier. Où en est-on aujourd'hui, Grégoire ?
Alors l'affaire Daewoo n'a pas freiné complètement les convoitises des sociétés étrangères, notamment indiennes, car le gigantesque potentiel agricole de Madagascar est reconnu partout. Et de leur côté, les autorités malgaches ne ferment pas non plus la porte à de potentiels investisseurs. Pour Ad Anjanainarivel, le ministre de l'aménagement du territoire et de la réforme foncière, l'important est surtout que c'est désormais Madagascar qui va fixer ses conditions.
Les règles du jeu sont claires vis-à-vis des investisseurs. Ce qu'on souhaite, c'est que tous les investissements qui se passent à Madagascar soient bénéfiques à la population locale et aussi aux investisseurs. Notre rôle, c'est de leur faciliter l'acquisition de terrain, mais en toute transparence, surtout vis-à-vis de la population locale, pour que ces populations puissent travailler de concert avec eux. Nous procédons par étapes. Nous ne voyons pas l'intérêt d'octroyer des millions d'hectares à quelqu'un, sachant très bien que ces millions d'hectares ne peuvent être valorisés que sur une période assez longue. Donc on va leur faciliter leur investissement à Madagascar, mais suivant un plan d'investissement précis.
Il faut rappeler, Grégoire, que Madagascar est l'un des pays les plus pauvres du monde. Alors, ne peut-on pas imaginer que louer ou vendre des terres soit aussi une solution pour ce pays ?
C'est sûr qu'il y a un vrai débat à ouvrir, mais il faut que tout le monde soit véritablement impliqué dans ce débat, et notamment les paysans. Dans les campagnes aujourd'hui, la priorité, c'est le problème foncier, car très peu de paysans sont officiellement propriétaires de la terre qu'ils cultivent. Ils ont simplement une sorte de légitimité pour y être installés et la mettre en valeur. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils ont eu peur, à raison sans doute, que Daewoo ne les déloge pour son projet. Alors un vaste programme foncier est en cours pour régulariser cette situation, mais cela va prendre beaucoup, beaucoup de temps.
Grégoire Pourtier en direct de Madagascar. Merci Grégoire, merci aussi à Delphine Sureau à Shanghai et à Virginie Gomez en Éthiopie. Vous pouvez bien sûr retrouver ce dossier sur le site internet des Pourtant Elle Tourne.
Écoutez. Uh-huh, uh-huh, uh-huh.